Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Moodstep. Nous recevons un coach agile. Alors, pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement, c'est notre troisième coach agile en 31 épisodes. Donc, 10% des épisodes sont dédiés à l'agilité et aux méthodes agiles parce que quand j'ai découvert ce groupe de farfelus, je les appellerais, parce qu'ils tentent plein de choses, parce qu'ils osent plein de choses, ils remettent en question, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, aller réexplorer les croyances qu'on a et qui sont ancrées en nous et qui parfois ne sont plus valables, plus valides, et eux ils remettent en question ça. Donc c'est un nouveau coach agile que j'accueille aujourd'hui, Steve, avec qui nous allons parler des bienfaits de l'ignorance. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur et votre hôte pour ce podcast. Nous retrouvons tout de suite Steve. Bonjour Steve.
Bonjour Johanna.
Je suis heureuse de te recevoir. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois de ça, une journée sur l'agilité. Je crois que c'est là qu'on s'est rencontrés.
Exactement, en Vendée.
Agile Vendée. Nous allons parler de comment l'ignorance... Alors, c'est marrant, le sujet que tu as choisi, c'est comment l'ignorance peut aider à devenir un moins mauvais manager. Pourquoi pas un meilleur manager?
Bah parce que je manage dans un côté associatif, côté professionnel, je mélange le tout et je mets mes expériences de l'armée, tout mélangé. J'ai 42 ans, depuis l'âge de 15 ans. Donc, ça fait quand même un paquet d'années que je suis manager. Et en fait, je me rends compte, en me remettant en cause régulièrement, que je suis un petit peu meilleur. Donc, si tu regardes en arrière, tu te dis « Ah, mais avant, j'étais vraiment pas bon, en fait. » Donc, je pense qu'on est tout le temps, quand on se remet vraiment en cause, on est tout le temps... ça inclut, si tu veux, le principe d'être un petit peu meilleur tout le temps, ça inclut le fait qu'avant, tu étais quand même... pas bon, quoi.
Bah, justement, tu évoques un peu ton passé. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais?
Alors, j'ai commencé brillamment par échouer mes études, ce qui a été très utile pour la suite, en fait. Pas bon du tout pour les études. Et donc, je me suis retrouvé veilleur de nuit dans un hôtel 3 étoiles à Saumur. L'armée est venue, donc je suis parti faire l'armée, et puis je me suis retrouvé à devenir vendeur informatique, et puis la curiosité aidant, a fait que je suis devenu chef de rayon à la place du chef de rayon qui partait, et puis après je me suis retrouvé à m'occuper d'espace culturel Leclerc, je me suis retrouvé directeur d'un magasin Office Depot, tu vois, un petit peu sur le chemin, il y a de la lumière, j'y vais. J'ai monté même mon entreprise pour vendre des cartouches d'encre. Et puis après, je me suis dit, tiens, développeur informatique, c'est pas mal. Donc, je suis retourné à l'école à plus de 35 ans pour devenir développeur informatique. Et de par mon passé un peu en manager, j'ai très vite repris un peu le côté manager, donc responsable d'équipe. Et en fait, très vite pour me rendre compte que j'évoluais tout le temps dans des mondes qui ne me plaisaient plus, en fait. Enfin, où on passait notre temps à nous mentir. Le métier de l'informatique, c'est le métier magnifique pour ça. En fait, tu demandes à un développeur combien de temps il te faut pour faire telle tâche. Lui, il sait qu'il va mettre 2 jours, donc il va t'en vendre 4. Toi, tu es le chef, donc tu dis, lui, s'il a dit 4, je vais peut-être dire 8 pour me border. Le commercial, de son côté, il dit, oh là là, ils ont dit 8, mais à chaque fois, ils sont en retard. Je vais vendre 16 jours à mon client. Et le client, comme il sait tout ça, il renégocie le tout en disant « Non, non, vous moquez de moi, je suis sûr que c'est faisable en 8 jours. » Donc voilà, c'est cet univers où tout le monde se ment tout le temps et finalement, on n'arrive pas à avoir des résultats. Et du coup, je me suis dit « Il y a peut-être moyen de faire mieux. » Et puis, je suis arrivé sur les fameuses méthodes agiles. Donc, je ne veux pas forcément en faire des tonnes parce que sur ton podcast, il y a des tas de gens qui ont dit des tas de trucs super intéressants là-dessus. Mais donc voilà, je suis rentré là-dedans et maintenant, je suis ce qu'on appelle un coach agile. Alors je pense que je suis vendu comme ça et en vérité je suis plus quelqu'un qui cherche à aider des groupes ou des entreprises à continuer à obtenir des bons résultats dans un monde qui change, parce que l'une des histoires qui sont liées à l'ignorance, c'est justement notre monde qui change et qui change de plus en plus vite et qui fait que voilà, ce qui marchait peut-être 5 ans avant, voire même 2 ans avant, fait que ça ne marche plus en fait.
Tu as dit que je suis vendu comme un coach agile. Tu es un indépendant ou
Non, je suis pas indépendant. Alors aujourd'hui, comme je suis toujours en transit, je suis entre deux sociétés de services. On me retrouvera prochainement du côté de Nantes. Mais
sur
j'en
quel
doute pas
type
pour
de
la prochaine.
problématique on vous appelle quoi, on appelle un coach agile?
Bah le truc, c'est ça marche plus quoi. Très souvent alors les problématiques, elles sont vraiment très 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 variées. Ça dépend vraiment des entreprises et des équipes. Grosso modo, c'est un peu tout le temps le même constat, c'est qu'ils appliquaient des méthodes avant qui ont très bien marché pendant très longtemps et qui aujourd'hui ne marchent plus.
Mais dans
On se
quel
dit.
domaine? Parce que l'agilité, ça vient de l'informatique. Est-ce que t'interviens que dans des domaines qui touchent à l'informatique?
Alors, de par mes. En fait, c'est souvent le point d'entrée de l'informatique. Et après, finalement, l'agilité, c'est plus une culture qu'autre chose. Donc, une fois que tu as passé que les gens ont un petit peu compris ce que c'était, après, tu vas toucher à d'autres problématiques dans l'entreprise. Alors, pour peu que l'entreprise soit assez grande, mais. Donc, du coup, assez vite, tu vas sur du management. Et notamment, là, je sais pas, je donne un exemple récent. Qu'est-ce que j'ai fait? Sur des entreprises qui un labo pharmaceutique sur lequel on a posé la problématique un peu de l'ignorance et du coup de l'agilité au niveau des plans de performance. Tu vois, les plans de performance qui se faisaient depuis toujours, on s'aligne sur la stratégie de l'entreprise et puis on travaille sur un an et on essaie de décliner la stratégie tu vois, en différents plans d'action. Et puis du coup, on a 12 000 projets en parallèle qu'on travaille sur un an. Et puis au bout d'un an, on a travaillé sur deux, puis on n'a pas vraiment le résultat qu'on voulait. Donc voilà, il y a cette culture que j'essaye d'amener qui.
On
Alors,
touche au sujet là de
de
l'ignorance.
l'ignorance,
On peut
ouais.
continuer sur cet exemple. Déjà, qu'est-ce que l'agilité va amener à ce changement de paradigme de passer d'objectifs annuels avec des révisions et des objectifs pour chaque service sur ce qu'il doit atteindre? Comment vous allez aborder ce problème et ce changement de culture?
Alors le changement de culture, il va se faire. Enfin, si tu veux, c'est un peu deux chantiers très souvent. C'est-à-dire que tu as le chantier, je dirais le chantier de l'ignorance, c'est-à-dire justement travailler la culture d'un côté. Et puis après, il y a des projets, alors qu'ils soient informatiques, qu'ils soient organisationnels, qu'ils soient, enfin n'importe quoi en fait, n'importe quel type de projet, réorganisation d'équipe, peu importe. C'est un peu les implémentations, si tu veux, de cette culture que l'on essaie d'étendre. En fait, l'un des principes que j'utilise, c'est de me dire, on ne peut pas switcher les gens, alors, on ne peut pas manager les gens, on peut pas. Moi, j'arrive pas, je ne suis pas magicien, j'appuie pas sur la tête des gens comme ça, et en 2 minutes, hop, ça y est, ils sont devenus super agiles, super performants ou super je sais pas trop quoi. Non, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé le truc encore. Et le truc, si tu veux, ça va être de se dire, on va créer des petites implémentations, des petits projets dans lesquels on va essayer de faire fonctionner cette culture. Et à force d'en mettre un petit peu partout dans l'entreprise, eh ben, on va faire émerger comme ça une meilleure connaissance de cette culture. Après, ce qu'il faudrait quand même, c'est peut-être préciser le mot ignorance. Parce que ignorance comme ça, c'est pas très sexy. Alors, je ne sais pas, c'est quelque chose que je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher le bon terme. On a l'impression qu'il y a une bonne et une mauvaise ignorance, mais ce serait trop restrictif. J'aime pas le terme de bonne ignorance ou mauvaise ignorance, parce qu'il y a un côté un peu manichéen, tu vois, le bien, le mal. C'est trop compliqué. Enfin, c'est plus subtil que ça. Peut-être qu'il y a une notion d'ignorance en pleine conscience. C'est un peu ça, l'ignorance que l'on cherche. C'est-à-dire de se dire, ok, peut-être j'ai des process, peut-être j'ai des outils, peut-être j'ai des trucs que je fais depuis des années, mais finalement, même si j'ai l'impression que ça marche, moi, dans mon coin, manager de mon équipe, est-ce que vraiment ça fonctionne en fait? Est-ce que vraiment la revue annuelle que je fais avec mon employé pour lui poser les questions et à laquelle il n'aura jamais de réponse, est-ce que vraiment ça a encore du sens de faire tout ça? Peut-être ça marchait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, est-ce que ça marche encore? Donc voilà, c'est vraiment cette recherche-là en permanence de se dire, Je pense que la solution, c'est ça. Je pense que mon projet, j'ai envie de faire ça. Je pense que pour améliorer la performance d'une équipe, c'est ce truc-là. Et ben, le principe, c'est de mettre un cadre autour qui va dire tout simplement, eh ben, OK, on va partir sur cette hypothèse, mais on va se donner un temps qui est très limité. Alors, en fonction des projets, ta boucle de temps comme ça, elle est plus ou moins longue. Ça peut être 2 semaines, ça peut être 3 semaines, ça peut être 1 mois. Et le principe, c'est vraiment de se dire, OK, dans 1 mois, ce que l'on a pu faire, est-ce que vraiment c'est ça qu'on voulait faire en fait?
Je vais essayer de reformuler parce que j'arrive pas complètement à comprendre en effet ce terme d'ignorance puisque tu nous parles de boucle rétroactive, donc au contraire, on parle de bien comprendre ce qui se passe en temps réel, par exemple dans le groupe. J'ai l'impression que quand tu parles d'ignorance, ça me fait penser à ça quand on sait qu'on sait pas.
Ouais, bah c'est clairement ça.
C'est-à-dire, c'est se mettre dans une posture où on admet qu'on ne sait pas ou qu'on ne maîtrise pas tout, et donc on revient dans le moment présent et on accepte la partie des choses qu'on ne contrôle pas. Mais tout ce que tu enseignes, et notamment avec l'agilité, ce sont quand même des processus qui nous aident à piloter, donc à savoir, à sentir. Est-ce que tu pourrais m'aider à mieux visualiser ce que tu transmets?
À faire le distinguo entre les deux. Alors, il y a quelque chose qui est que je trouve un peu faux. Voilà, moi, je pratique l'agilité depuis 2010. Ce qui est un peu faux dans l'agilité, c'est le processus empirique. Alors, je ne dis pas que c'est faux, je dis que de mon point de vue, c'est un truc qui est un peu biaisé.
Pourquoi?
L'agilité, c'est justement un processus empirique où tu apprends en faisant. La seule limite que je vois à ça, c'est que ça voudrait dire, si tu vois, si tu te bloques strictement à ça, que une fois que tu as fini ta boucle, que tu as appris quelque chose, que cette chose devient vraie.
Oui, d'accord, je comprends.
Et pour le coup, et moi je t'assure que pour les implémenter dans des équipes, c'est vraiment extrêmement compliqué. Une fois que les gens ont dit oui, mais là ça marche, bah, 3 mois après, ils vont traîner encore ce truc-là en se disant oui, mais on a appris que ça marchait. Mais oui, mais c'était à 3 mois, c'était un autre contexte, etc. Donc, pour ça que je pense que ce côté ignorant en pleine conscience, où vraiment tu remets totalement tout le temps en cause les différents éléments, c'est quelque chose qui je ne vais pas dire que c'est l'étape d'après de l'agilité, mais il y a un peu ce principe-là. Dans le très bon bouquin de Jürgen Appello, tu vas trouver plein de choses très scientifiques. Et notamment, il y a des choses assez sympas sur les notions de créativité par rapport aux âges des enfants. Et en fait, il nous apprend qu'à peu près jusqu'à 3 ans, un enfant, en fait, il fait tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui est génial. Il peint sur les murs, enfin voilà. Parce qu'en fait, il n'a aucune limite. Tu veux, il n'a pas les notions de l'éducation, les machins, et toutes les conneries qu'on va lui mettre dans la tête après. De lui dire, fais pas ça, monte pas sur l'arbre. Tiens-toi bien à table et compagnie, compagnie. Et du coup, après, il va passer dans une phase, en fait, où les parents vont lui dire, fais pas ci, fais pas ça, à l'école, fais pas ci, fais pas ça. Et du coup, son comportement va être totalement changé. Et c'est vrai que si tu vas d'une culture, d'un pays à un autre, tu vas te rendre compte que cette phase-là, elle va être totalement différente en fonction des gamins. Et plus tard, alors c'est vers 15-16 ans, alors ça dépend vraiment des enfants. Les enfants deviennent assez grands et en fait ils savent sortir, si tu veux, de ce modèle hyper, tu vois, fais pas ci, fais pas ça. Oui, bah ok, j'ai pigé le principe, je comprends pourquoi tu me demandes de le faire, donc je vais adapter mon comportement en fonction de ça en fait. Et du coup, vraiment, ce que je recherche moi, et c'est pour ça que j'utilise beaucoup les jeux et beaucoup de situations totalement qui peuvent paraître stupides, comme tu as pu en voir chez Agile Vendée.
Oui, j'ai vu des choses, mais très drôles en même temps.
Et en fait, c'est vraiment la recherche de renvoyer les gens vers cet âge entre 2 et 3 ans, on va dire, ou de se dire, voilà, mais si vous saviez rien, comment est-ce que qu'est-ce que vous feriez en fait?
Oui, mais si je fais le parallèle avec un être humain, moi j'ai 40 ans, aujourd'hui je suis aussi contente d'avoir construit des apprentissages. Si je devais remettre tous mes apprentissages en question, tu vois, à chaque âge revenir, je resterais à l'état infantile, non?
Et ce serait le paradis.
En fait, tu veux qu'on redevienne tous des enfants.
C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais, mais vraiment, et le pire, c'est que c'est un peu ça et que ça marche vraiment. Moi, j'ai eu la chance que l'on me de travailler sur des projets alors qui sont hyper confidentiels dans la défense. J'ai travaillé sur des concepts de ville intelligente. Et si tu veux, moi, j'interviens sur des projets. J'interviens pour 1 an, 2 ans. Je ne peux pas devenir un expert de c'est quoi une ville intelligente. J'en sais rien, en fait. Mais justement, quand j'arrive avec cette casquette du je sais pas, et ben tout d'un coup, les projets qui étaient en échec font que ça va remarcher parce que on va pas chercher à, comment on va dire, à suivre des plans. Je te donne un exemple. Un électricien, par exemple, il peut être formé à l'école très jeune. Pendant pratiquement toute sa vie, alors maintenant il y a beaucoup de techniques qui évoluent, hein, mais les notions d'ampères, de volts et compagnie, ça il faut qu'il le sache, il n'y a pas de problème là-dessus. Tu as des métiers comme ça où c'est quelque part c'est non négociable. Tu as du savoir que tu dois savoir, donc ça c'est voilà. Il faut si tu ne connais pas ces trucs-là, tu peux pas devenir électricien et tu peux pas faire ton enfant de 2 ans devant la prise électrique en disant je vais découvrir le monde parce que ça peut faire trop mal. Donc ça, il faut absolument le savoir. Maintenant, pour tous les métiers qui sont liés aux sciences, et je pense que le management est profondément une science de l'humain, on a plutôt intérêt à avoir la posture du je sais pas, plutôt que la posture du je sais. Et du coup, par exemple, je te donne un exemple d'implémentation de cette histoire-là. Ce que je mets en place maintenant, ce sont des laboratoires de pratiques managériales, où en fait, avec un petit process qui n'est pas très compliqué, qui est que n'importe qui peut avoir envie d'essayer n'importe quoi. Par exemple, en allant écouter ton blog Moodstep, en allant lire des bouquins comme Management 3.0, etc. C'est tiens, j'ai trouvé un outil, j'ai trouvé un process, j'ai entendu une intervenante, etc., qui parle d'un truc. Et j'ai envie de l'essayer dans mon équipe. Quand tu as plusieurs managers dans une entreprise, moi ce que je leur dis, c'est quand vous avez une bonne idée comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est la première chose, c'est de demander à un autre expert. Voilà, expert entre guillemets, c'est de dire, tiens, je pense que telle et telle personne dans l'entreprise pourrait peut-être m'apporter des choses par rapport à ce que j'ai envie d'essayer. J'ai entendu le dernier podcast de Johanna sur la créativité. Tiens, j'aimerais bien faire venir l'intervenante. Eh ben, je vais essayer d'attraper deux, trois personnes de l'entreprise qui pourraient donner un avis intéressant là-dessus. Une fois que j'obtiens l'accord, entre guillemets, de ces experts, alors, entre énormes guillemets, hein, les experts, la deuxième étape, ça va être d'obtenir l'accord de toutes les parties prenantes. Si j'ai envie de tester des choses sur des gens, les gens de mon équipe, eh ben, je demande leur accord. On n'est pas dans un modèle, je suis le chef, je vous mets ça dans les dents. Non, voilà, on a trouvé ça, j'ai envie de le tester, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Si tout le monde est d'accord, on teste la chose, on se donne une période, et à la fin de la période, on se dit, OK, est-ce que c'est intéressant ou est-ce que c'est pas intéressant? Très clairement, c'est la façon dont moi, par exemple, quand j'arrive, je mets en place de l'agilité. Dans les très grands groupes, très souvent, on commence par un projet. Et tous les mois ou tous les mois et demi, durant le projet, toutes les parties prenantes sont sondées en leur disant est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens ou pas? S'ils me disent que ça va pas dans le bon sens, c'est terminé. On a appris quelque part que c'est pas ça qui marchait.
C'est marrant parce que ça touche à la question que je voulais te poser, parce que d'essayer comme ça dans l'entreprise, bah tu peux heurter des sensibilités, tu peux heurter des gens dans la structure. Donc il faut, tu as parlé de ça, d'en fait, de demander l'engagement de chacun à rentrer dans ses processus, ce qui n'est pas toujours possible parce qu'on est des grands groupes, parfois c'est quelqu'un des RH ou de la com qui va décider de rentrer dans un processus. Je pense à un cas très pratique qui vient de m'arriver où quelqu'un était dans un groupe que j'animais et a été choqué, a été perturbé par le travail. Et moi, Ça m'en remet beaucoup en question là. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que quelqu'un m'exprime quelque chose de négatif en fait. Donc je me dis, tu vois, ça m'attire toute cette partie agilité. On essaye, on tente des choses. Et comment, ouais, est-ce que tu as des expériences où il y a du rejet?
Bah, pratiquement toutes, et vraiment plus ou moins, et après à différents échelons. Bah, en fait, c'est logique. Si les choses se passaient magnifiquement bien, je pense qu'on n'appellerait pas des coachs agiles. On part d'un postulat de base où il y a des problématiques. Et après, plus tu vas avoir de couches hiérarchiques, plus effectivement ça va être super compliqué. Puisque ces nouveaux modèles de management qui se cherchent, alors sans aller jusqu'à l'holacratie, mais il y a un peu ces principes-là quand même, c'est-à-dire que le manager doit vraiment trouver aussi sa place là-dedans. On a tendance à autonomiser les équipes, donc voilà. Donc il y a des gens qui sont heurtés dans les équipes, et il y a des gens qui sont heurtés dans le management. L'un des principes, j'entendais Pierrick là dans l'un des podcasts qui disait ça. Lui, il disait, nous on fait qu'avec des gens qui ont envie de le faire. Moi, je ne sais pas me contenter de ça aujourd'hui, parce que quand tu es sur des grands groupes, tu peux pas faire seulement avec les gens qui ont envie de faire. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est commencer par les gens qui ont envie de faire. Donc, potentiellement identifier, essayer de trouver dans l'entreprise les gens qui peut-être pourraient avoir envie de faire ça. Après, créer un cadre, je pense que le management aujourd'hui, c'est pratiquement que créer un cadre. Créer un cadre autour qui va être sécurisant, où justement on va autoriser les gens à ne pas savoir, ce qui pour moi est vraiment 90% du temps, les gens, il me faut plusieurs jours, voire semaines, pour que les gens osent dire qu'ils ne savent pas en fait. Parce que le mindset de l'entreprise, et la plupart des entreprises, on ne demande pas à les gens de ne pas savoir. On demande aux gens de savoir, on demande aux gens d'être sûrs, de s'engager, de dire qu'est-ce que vous aurez fait dans 3 jours, où vous en êtes, pourquoi vous êtes en retard, dans un monde qui est tout le temps en train de changer, dans lequel il est impossible d'être prévisible. Donc, passer ce premier. Tu crées du coup ton petit cadre qui va autoriser les gens. Juste entre nous, là, dis-nous si tu as un problème, juste dis-nous si tu penses que tu vas pas y arriver, juste dis-nous, etc. La plupart du temps, et pour l'instant, depuis 2010, ça a toujours été le cas pour moi, c'est que ces premiers projets, qui ont été des projets compliqués, ont réussi. Et là, pour le coup, tu vas te créer des envies ailleurs. Et après, le principe, c'est d'essayer un peu comme un coucou, d'essayer d'en mettre un petit peu ailleurs pour faire en sorte que ça marche mieux. J'ai voulu très souvent en fait dans les entreprises où les couches supérieures du management sont totalement hostiles à ce que je fais.
Ah oui? Mais
Ah,
pourtant, qui a commandité?
les couches intermédiaires.
Ah ouais.
C'est-à-dire que ouais, mais oui, parce que plus tu as une structure qui est grosse, plus chose que je comprends parfaitement, hein, plus tu as besoin de piloter ton bateau en fait. Et si on arrive, ces gens-là, ils ont besoin d'avoir, et ils en ont plein. Des gens qui leur donnent du conseil et qui leur disent faites ça et vous aurez tel résultat. Et ils savent toujours en trouver des consultants qui leur disent si vous faites ça, dans 3 ans, vous êtes là. Et donc, ils ont plutôt envie d'acheter ces gens-là plutôt que les gens qui disent bah, écoutez, moi je ne
On
sais
sait
pas.
pas.
Par contre, comme je sais que je ne sais pas, ma démarche ne va pas être du tout la même. Moi, je ne vais pas vous dérouler un plan, je vais trouver un moyen. Mettre en place et l'agilité propose 20 000 trucs là-dedans qui justement ne coûtent pas cher en termes de boucle rétroactive là d'apprentissage qui vont nous permettre d'apprendre en faisant et je sais pas où on sera. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on aura maximisé totalement la valeur par rapport au temps ou au budget que vous nous aurez confié. Et donc oui, ces gros capitaines de bateau là sont totalement éperdument souvent hostile, mais je trouve en dessous les gens qui sont les commanditaires finalement, qui eux sont plus sur un niveau opérationnel, qui n'arrivent plus avec les méthodes précédentes et qui obtiennent, si tu veux, une espèce d'accord souvent par le N plus 1, sachant que tu as un N plus 2 ou N plus 3 qui n'est pas tout à fait d'accord, mais On leur dit, OK, bah essayez ce truc-là, et puis vous allez vous planter, puis vous verrez. Et puis, bah tiens, ça marche. Bon, bah essayez peut-être sur un autre, c'est un coup de chance. Ça marche encore. Donc, et petit à petit comme ça,
Ça
et bah.
grimpe dans les étages.
Mais en fait, c'est l'émergence. Et c'est
Ouais.
pratiquement comme ça que ça devrait être. Et je te dirais même que ça ne peut être que comme ça.
Bah, tu dis ça, mais moi, mon expérience, elle est inverse. Mes commanditaires sont souvent
Tout en haut.
plus haut, ouais. Donc, ma question est inverse, et c'est vrai que poser un cadre de sécurité, je vais retravailler, parce que ça m'a vraiment interpellé ce mail d'une personne qui a participé à une turbine à bonheur et qui l'a mal vécu. Donc, j'ai besoin de retravailler ce cadre dont tu
Eh bien,
parles.
je vais peut-être te donner deux, trois trucs. Premier truc, principe d'invitation. C'est un jeu que tu fais, comme ce que je fais moi.
Oui,
Donc,
mais c'est un jeu qui touche à qui nous sommes, qui nous met en relation avec l'autre. Et certaines personnes ne sont pas prêtes à être en relation parce qu'elles ont des souffrances parfois très très importantes.
je
Et
le sais.
que de. En tout cas, ce que cette personne me disait, c'est. En fait, ça l'expose à des gens avec qui elle ne veut pas s'exposer. Donc, comment je crée un cadre qui permet à cette personne. De ne pas rentrer en relation si elle n'a pas envie de rentrer en relation, alors que le jeu pousse à être en relation authentique et elle ne se sent pas là, c'est pas le moment pour elle d'être en relation authentique, tu vois. C'est ma réflexion actuellement qui est toute chaude, hein, pour le coup.
C'est le principe d'invitation. Moi, je mets vraiment ça en place. Tout ce que je fais base sur le principe de l'invitation. Si je dois faire des réunions, des machins, je sais pas quoi, j'ai jamais de personne, tu sais, en obligatoire dans les emails.
Oui, mais
Je mets
si tu veux, moi
tout
j'interviens sur
dans
des
mon facultatif.
séminaires. Donc, t'as
Mais
l'ensemble des gens du séminaire.
oui, mais même à ce moment-là, tu peux lancer aussi le principe d'invitation, de dire bah, ceux qui veulent participer,
Oui,
venez participer. Si vous voulez pas participer, vous participez pas.
ça,
C'est le
je le mets, c'est un principe de liberté ou de souveraineté. Mais je suis en train de dévier sur moi. Et en plus, on a complètement dépassé le temps imparti. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter pour conclure?
qu'est-ce que je peux rajouter pour conclure? Pour conclure, tiens, c'est de se dire finalement comment te dire ça? Est-ce que vraiment ce principe d'ignorance est si malin que ça? Eh ben, on va aller voir ailleurs en fait. Et aujourd'hui, je suis aussi dans l'informatique. Comment fait Google pour faire des choses absolument incroyables? Comment font Microsoft pour obtenir des logiciels de reconnaissance qui font que maintenant dans Skype, tu peux parler avec n'importe qui dans n'importe quelle langue pratiquement. Tout est traduit comme ça à la volée. Eh ben, en fait, les algorithmes sont des algorithmes apprenants. C'est-à-dire que ce sont des algorithmes qui ignorent totalement comment on fait, donc je ne rentre pas dans le détail, mais qui vont explorer dans tous les sens. Et tout ce qui est intelligence artificielle est basé vraiment sur ce principe-là. L'intelligence artificielle, c'est je ne sais pas faire quelque chose. Comme je suis un ordinateur, je sais explorer par contre plein des milliards de possibilités à la fois. Donc j'explore toutes les possibilités, je regarde si ça marche, si ça ne marche pas. Et du coup, tout ce qui ne marche pas m'apprend finalement tout autant que ce qui marche. Et donc, c'est vraiment, je pense, l'étape d'après que l'on doit passer collectivement. Les gens aujourd'hui de la physique, tu vois, qui sont de la science qui est dite pour totalement acquise, dans l'infiniment petit, nous apprennent que bah, toutes les hypothèses qu'ils avaient sont fausses. De l'infiniment grand, nous apprennent que toutes les hypothèses qu'ils avaient sont fausses. En tout cas, si on récupère toutes les infos de l'infiniment grand, juste pour te donner un exemple, l'univers devrait se contracter. Or, il est en pleine expansion. Et tout est comme ça, en fait, si tu veux. Donc, on est vraiment dans un changement de paradigme sur le terme de savoir qui doit remettre en cause, je pense, tous les gens qui tournent autour des sciences, y compris, évidemment, les sciences humaines. Donc, les managers, dont nous faisons tous plus ou moins partie, et qui, plutôt que de faire des plans annuels ou plutôt que de faire des bilans toutes les semaines, des points d'étape ou des je ne sais pas quoi, devraient se poser la question à la fin de leur réunion, est-ce que ce que l'on a fait là est utile? Non, on l'enlève.
Simplicité. te propose de passer au questionnaire, comme à toutes les interviews, avec la première question. J'aimerais bien que tu nous racontes ce qu'on pourrait voir comme un échec et qui t'a beaucoup fait avancer ou appris.
Alors, le plus gros échec que j'ai, alors je ne dis pas personnellement parce qu'il y en aurait trop, mais professionnellement, j'ai eu justement la grande chance là, de bosser dans les industries de la défense. Alors, on ne faisait pas des bombes, hein, je te rassure. C'était vraiment de la vraie défense pour se défendre. Et de travailler, alors bon, je vais le citer quand même, avec les gens de chez Thales, avec des ingénieurs vraiment de très très haut niveau. Et on a mis en place justement les fameuses méthodes agiles sur l'un des sites. Et ça a été un succès vraiment formidable. Et juste après ça, je me suis retrouvé dans une start-up où je me suis dit, c'est vraiment trop cool, j'ai un ensemble de pratiques là, que je vais pouvoir amener dans cette start-up et ça va très bien marcher. Et en fait, il n'y a plus rien qui marchait.
Ah oui?
Non seulement ça marchait pas mieux, mais ça marchait pire qu'avant. Parce que justement, j'avais rien compris à tout ce qui était agilité. J'avais amené, si tu veux, les pratiques. Et non pas la culture qui veut que, quelque part, tu pars d'un point de départ et tu remets en cause ce point de départ. Mais qui fondamentalement, maintenant avec le recul, je vois que l'erreur qui est immense, hein, c'est que voilà, on a des entreprises qui sont dans un environnement à un moment donné, avec certaines personnes à un moment donné, c'est comment est-ce que tu les fais avancer, et c'est surtout pas, il y a ça qui marche ailleurs,
Oui.
j'ai tous les tampons qui vont bien, j'ai tous les certificats, et paf, je vous applique ça.
Mais oui, ça c'est un constat et c'est pour ça aussi que quand tu regardes des structures, même comme l'holacratie, est-ce que ça correspond vraiment à toutes les structures? C'est la question que je me posais. Et aussi, ça, c'est en parallèle avec l'être humain. C'est que une technique, je sais pas, pour être plus créatif, va ou même qui va travailler sur nos mécanismes intérieurs, va correspondre à une personne et pas à une autre. Donc c'est trouver son chemin là-dedans, en effet, en tâtonnant presque.
Mais c'est complètement ça, oui, c'est tâtonner. Dans le domaine scientifique, il y a la grande phrase, c'est la science, c'est chercher un chat noir dans une pièce toute noire. Hein. Mais, et si ça se trouve, il n'y a même pas de chat noir.
C'est Schrödinger.
C'est
Il est
ça.
là, il n'est pas là en même temps.
Et ben c'est exactement ça. Donc, ouais, mais ouais, non, mais c'est vraiment cette espèce de tâtonnement. Mais qui peut être pour le coup un peu outillé, qui peut être
Oui.
presque processé,
Ouais.
et
OK.
qui permet d'avancer quand même, alors sans doute moins vite que ce que l'on aimerait,
Mais plus sûrement
mais
peut-être.
voilà.
C'est-à-dire plus avec des fondations plus avec des fondations plus solides.
Exactement.
Deuxième question, est-ce qu'il y a une technique ou un outil qui t'a fait particulièrement avancer personnellement, professionnellement?
Alors c'est le principe, c'est le principe de feedback. Donc après les outils, tu as toutes les rétrospectives, etc. Les enquêtes de satisfaction, ce qui m'a paru pendant très longtemps très stupide, mais finalement, mon Dieu que c'est efficace. Ce qu'ils mettent en place sur les aires d'autoroute, moi je roule beaucoup sur les aires d'autoroute maintenant. Quand tu vas aux toilettes, je sais pas si tu as remarqué, mais
Mais
t'as
oui,
ton
parce
petit
que
son
j'étais sur une aire d'autoroute hier. Et tu peux me
et
dire si t'es satisfait.
de la propreté.
Mais oui.
Mais c'est absolument génial comme principe parce que plutôt que t'imagines les indicateurs qu'il devait avoir avant pour dire c'est propre, c'est pas propre, très compliqué. Et là tout d'un coup, est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Paf, paf. Les gens, c'est sale, mais ils sont satisfaits. Parfait. Ils sont satisfaits. Donc tu vois, tu vas pas chercher à faire mieux. Donc après, plus clairement, il y a vraiment quelque chose qui me permet là maintenant, depuis 2-3 ans, vraiment m'améliorer. C'est tout simplement de poser la question, comment puis-je m'améliorer? C'est très bête, mais partout où j'interviens, enfin, si je fais je me donne ma boucle pour moi, c'est toute intervention de plus de 4 heures, je me dois à la fin de poser la question, comment je peux m'améliorer? Et s'il y a des difficultés dans les équipes, ça ne marche pas, première chose que je vais voir quand je vais voir les équipes, c'est je leur dis comment est-ce que moi je peux m'améliorer? C'est la seule chose, moi-même, que je sais facilement. Si tu veux faire bouger dans ce monde très complexe où tout est lié là, moi je sais comment me faire bouger, donc je sais comment je vais pouvoir agir sur moi pour faire en sorte que ça aille mieux. Donc aidez-moi, dites-moi dans mon comportement ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui vous a choqué. Hein, je pense à ta turbine. Aidez-moi, je ne peux pas savoir. Vous êtes plein, je suis tout seul.
Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Bah, pour le coup, j'ai envie de dire l'humilité. C'est-à-dire que voilà, d'arriver en disant, bon bah écoutez, pas de bol pour vous, l'équipe, hein, je suis peut-être le pire manager du monde. Par contre, j'en ai conscience. Donc voilà, on va ensemble apprendre à ce que je sois un petit peu moins mauvais. Et voilà, je pense que si tu as cette humilité, tu vas avoir, je vais pas dire le réflexe, peut-être un peu plus dans la délégation et dans l'autonomisation, l'empowerment, tous ces concepts-là. Mais ça me paraît être un peu l'un des principes, je vais pas dire de base, parce qu'après, il y a des très bons managers qui ne sont pas du tout humbles. Mais en tout cas, pour moi, je pense que ça m'aide.
Ok. Et maintenant, est-ce qu'il y a un livre que tu conseillerais à la lecture?
Eh ben, je vais conseiller le très bon Managing for Happiness. Pierrick nous avait conseillé le Management 3.0 sur un précédent
Ah
podcast.
oui, c'est vrai. D'ailleurs,
Donc,
je vais l'acheter parce que bon, il y a le mot-clé happiness quand même dedans, donc il faut vite que je vois ça.
Managing for Happiness, c'est absolument génial. Enfin, le Management 3.0, tu as la théorie de la complexité qui est vraiment très intéressant pour justement essayer de comprendre toutes ces histoires de nuances et compagnie. C'est pas forcément, enfin, c'est fortement lié, on va dire. Et tu as vraiment le côté très théorique et le côté pratique après, comment il met en place. Managing for Happiness, c'est davantage, et c'est en ça où je trouve ça génial, vraiment des ateliers, des jeux, des choses très concrètes. L'expérience que je peux avoir, c'est-à-dire que et ton travail est très intéressant pour ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'une palette d'outils aujourd'hui. Tu peux avoir un outil qui va très bien marcher quelque part et qui va pas du tout marcher sur un même dans la même entreprise, mais sur un autre site ou dans une autre équipe. Donc on voit vraiment qu'on a de plus en plus besoin d'outils renouvelés parce que le contexte change de plus en plus. Et donc toutes ces sources-là de nouveaux outils inspirants sont vraiment les bienvenues.
Et on va finir avec une citation qui t'inspire.
Alors la citation qui m'inspire, je pense que l'éducation, enfin le manager a un vrai rôle de coaching, d'éducation. Et c'est une citation que tu connais peut-être de William Butler Yeats, qui est un poète de je ne sais plus trop où, et qui... T'as vu la qualité quand même des
Ta
références.
précision est implacable.
Et en traduit en français, ça donne éduquer, ce n'est pas remplir un seau, mais allumer un feu.
Ah non, je la connaissais pas. Éduquer,
Alors je
ce
précise,
n'est pas remplir un seau.
éduquer,
Oui,
ce
bah
n'est pas
oui,
remplir
bien
un
sûr.
seau, Seau, je précise quand même, mais allumer un feu.
Très beau. Bah, merci beaucoup. Où est-ce que on peut Mais en fait, est-ce qu'on a besoin de te retrouver, Steve? T'es sur Twitter ou... Ah oui, bah t'as ce site, t'as
Exactement.
le site, c'est ton site Agiliste?
C'est ça, oui.
Donc
C'est une tentative. C'est une tentative de site.
ça reste dans l'esprit du podcast. Donc on peut te retrouver sur Agilist. Je mettrai ta citation, le livre et ton site internet dans la description de ce podcast. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour maintenant, le futur, cette journée, la
Eh
semaine,
ben.
l'année?
Et bah du
Du
bonheur, hein.
bonheur!
C'est pas mal du
Ok.
bonheur, non? Ouais.
Fastoche, on t'envoie ça, je t'envoie ça par la poste.
Parfait.
Merci beaucoup d'avoir participé et nous on se retrouve la semaine prochaine.
Merci, Johanna.
En fait, je me rends compte que cette notion de je ne sais pas et chaque organisme vivant et l'entreprise est un organisme vivant est un individu unique dont il faut comprendre les fonctionnements. Ça rejoint un peu ce qu'on a échangé avec Renaud Gaucher sur ce podcast sur l'analytique RH. Je me dis qu'il faudrait presque présenter les deux. Parce que lui, il fait tout ce dont on a parlé, d'aller chercher les données et ce feedback pour s'appuyer sur des données réelles et propres au groupe avec lequel on traite. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et on va changer complètement d'univers puisqu'on va aller dans l'univers de la voix, notre voix. Donc, à la semaine prochaine. Au revoir.